Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
C'est le 13 octobre 1131, je dis bien 1131, à Paris ou dans les immédiats, dans les environs immédiats de Paris, qu'a eu lieu le fameux accident. Quand je vous parle d'un accident, en soi, il n'a rien d'exceptionnel. Au Moyen-Âge, les chutes de cheval étaient fréquentes, les chutes mortelles pouvaient arriver, bien entendu, et un fils de souverain qui meurt dans l'adolescence d'une chute de ce genre, on en connaît un certain nombre, on pourrait même en dresser la liste. Néanmoins, le drame en question n'est pas un drame comme les autres, puisqu'il met en scène le prince Philippe qui, en vérité, est même roi de France. Il est très exactement roi désigné de France. Dans un instant, vous allez voir de ce que cela veut dire. Ce prince Philippe est le fils donc de Louis VI, le roi régnant. Et l'usage à cette époque voulait que l'on associe au trône le plus tôt possible les fils aînés des rois. Vous savez qu'on est dans les débuts de la dynastie capétienne et que le principe d'hérédité, de dévolution héréditaire de la couronne n'est pas encore bien ancré dans les usages. Donc ce que font les rois, c'est que dès qu'ils le peuvent, ils font couronner leur fils aîné de sorte que qu'on ne se pose pas de questions à leur mort sur leur successeur. Alors, un accident de cheval, certes, mais en l'occurrence, le cheval n'est que très indirectement en cause dans l'accident, puisqu'un autre animal, vous l'aurez compris, est à l'origine de la mort du jeune roi de France. Il s'agit d'un cochon. Alors, on a beaucoup dit, je me rappelle d'ailleurs dans un manuel, quand j'étais enfant, on disait d'un sanglier, mais non, non, non. Ce que nous montre Michel Pastoureau, c'est que ce n'est pas un sanglier, précisément. Il s'agit bien d'un cochon qui s'est jeté dans les pattes du cheval, entraînant cette chute mortelle. Or, et c'est le moins qu'on puisse dire, le cochon à l'époque a mauvaise réputation. Certains voient même dans cette mort infâme un mauvais présage pour la dynastie. Quelle est la situation du royaume de France en 1131? Mais c'est une situation étrange. Vous avez peut-être suivi la série télévisée elle-même tirée de la grande saga romanesque de Ken Follett, les piliers de la terre. On est dans cette atmosphère et dans cette époque, si vous voulez. Un essor économique et démographique très important, des famines, des épidémies qui existent encore, mais qui se font objectivement de plus en plus rares. Et surtout, et c'est ce qu'il y a de tellement fascinant dans ce 12e siècle, tellement voué au symbole, un épanouissement intellectuel, artistique et surtout spirituel extraordinaire. Les universités n'existent pas encore, concède Michel Pastoureau, mais les écoles épiscopales diffusent un enseignement de haut niveau. Celles de Chartres et de Paris sont les plus réputées. Elles attirent des étudiants de toute l'Europe. De même, si la littérature en langue vernaculaire est encore timide, elle produit déjà quelques œuvres remarquables. À la même époque, l'art roman connaît son apogée, mais il laisse déjà deviner ici ou là, notamment dans l'architecture, les prémices de ce qui sera plus tard le gothique. Et c'est vrai que c'est un véritable bouillonnement architectural. Si, comme moi, vous êtes passionné par l'art roman, vous savez tout ce que nous devons à cette époque en général et à ces années-là en particulier. 1131, c'est l'efflorescence même de l'art roman. On est à une époque où la vie monastique est en plein renouveau. Quelques années plus tôt, l'abbaye de Clairvaux a été fondée avec Bernard comme premier abbé. Nous en avons parlé à la fin de l'année dernière, rappelez-vous. En 1098, Robert de Molesme avait créé l'abbaye de Citeaux, qui va donner naissance à l'ordre cistercien. Et puis c'est l'époque, bien sûr, de la première croisade, qui voit l'avènement de l'idéal chevaleresque et qui attire évidemment la noblesse. Alors, il y a une crise à cette époque, crise très grave et qu'on aurait tort sans doute de sous-estimer, c'est la crise de la papauté. Il y a eu une élection pontificale au mois de février 1130, donc juste à ce moment-là, vous voyez, et on a deux pontifes. D'un côté, soutenu par une partie de la curie romaine et par le roi de Sicile, Roger II, qui est là et qui le soutient manu militari, a été élu le pape Anaclet II. Et de l'autre côté, chassé de Rome et d'Italie par son rival et soutenu au-delà par la quasi-totalité, en tout cas par la plupart des souverains d'Occident, le pape Innocent II. Eh bien, le roi de France, Louis VI, est un des soutiens d'Innocent II. En 1131, cela fait déjà 23 ans que règne Louis VI. Il a 49 ans, il en fait nettement plus. Il faut vous dire que, évidemment, au XIIe siècle, on accusait les années. Or, Louis VI est obèse, d'où son surnom de Le Gros. Il est malade, il ne peut plus monter à cheval, ni faire la guerre, et ni chasser, par définition. Il semblerait, enfin c'est ce qu'on laisse entendre dans les chroniques de l'époque, que cette obésité soit héréditaire. L'historien anglo-normand Henry de Huntington accuse les parents de Louis VI, je le cite, d'avoir fait de leur ventre un dieu, et il souligne qu'ils sont dévorés par leur propre graisse. Eh bien, depuis le début de son règne, Louis VI, qui est un bon roi simple, rustique, Louis VI s'est imposé en remettant un peu d'ordre dans le domaine royal. Il a lutté contre les brigands, les pillards, quand je dis les brigands, certains de grandes familles, du reste. En 1131, la famille royale n'en demeure pas moins fragile et perturbée par des querelles internes. À cette époque, le pouvoir est constamment contesté sur ses marches par un certain nombre de grands féodaux. Or, compte tenu de l'état de santé de Louis VI, il était très urgent de désigner un héritier pour assurer la continuité de la dynastie, cette jeune dynastie capétienne. Le fils de Louis, donc Philippe, a 15 ans, il sera le futur roi de France à la mort de son père. Il était né, ce roi Philippe, si l'on doit ainsi l'appeler, il était né le 29 août 1116. Les annales de Saint-Denis racontent que au moment de sa naissance, on était dans un jour de grand vent. Ça, c'était pas un bon signe, évidemment. C'était considéré même comme un mauvais augure. Il porte le nom de son grand-père, le célèbre roi Philippe Ier, bien entendu, qui a régné, qui a été le roi des Francs jusqu'en 1108. Or, je me permets de vous rappeler qu'en grec, Philippe, Philippos, c'est celui qui aime le cheval, n'est-ce pas, qui est l'ami des chevaux. C'est un nom de baptême, vous l'avouerez, assez malheureux pour un prince qui va mourir des suites d'une chute de cheval. Philippe est le fils aîné de Louis VI et de la reine Adélaïde de Maurienne. On ne sait pas grand-chose hein, de cette reine Adélaïde, mais on sait qu'elle était laide, particulièrement disgracieuse, et qu'elle a par ailleurs joué un rôle très important dans les affaires du gouvernement, ce qui est une nouveauté à l'époque pour une reine de France. Alors, on ne sait pas grand-chose non plus, remettez-vous dans le contexte, encore une fois, on est très tôt là dans l'histoire de la jeunesse de Philippe. Ce qu'on sait, c'est que le jour de Pâques 1120, à Senlis, Louis VI l'a fait acclamer et reconnaître comme son successeur par une assemblée de prélats et de barons. Il était tout jeune, hein, le petit Philippe, par définition, il avait 3 ans et demi à l'époque. Et dans la plupart des documents qui émanent de la chancellerie royale, à partir de là, on va dire systématiquement que Philippe est le roi désigné à la succession au trône, bien entendu. Les actes royaux, peu à peu, vont se mettre à préciser comment le roi Louis a pris telle ou telle décision avec l'assentiment ou avec le consentement de son fils Philippe. Et quelques années plus tard, en 1129, à Reims, toujours le dimanche de Pâques, qui est la grande fête chrétienne, Philippe, qui à l'époque a 12 ans et demi, est sacré et couronné. Le Saint-Crème vient couvrir son front, ses bras, ses épaules, lui conférant différents pouvoirs. Il est loin du Seigneur, comme son père, les rois capétiens, on va dire tous les rois de France depuis le sacre de Pépin le Bref en 752 ont vécu la même cérémonie. Cet usage d'associer au trône du vivant du père le fils aîné du souverain, encore une fois, est très important dans l'assise de l'institution royale héréditaire en France. La chancellerie compte les années du règne de Philippe à partir de ce dimanche de Pâques 1129. Vous voyez donc là, il y a une sorte de quasi-confusion hein, puis par rapport au règne de son père. Tous les documents de la chancellerie le qualifient donc de roi désigné, Philippus Rex Designatus, ou de jeune roi, Philippus Rex Junior. Et sur les chartes, son signe personnel, en forme de croix, est placé au-dessous du monogramme de son père. Alors on ne sait pas ce que va faire le prince Philippe après ce sacre. On sait qu'il a été adoubé chevalier, on sait qu'il a été initié par son père à la chasse. Bref, il est très souvent à la chasse. Vous savez qu'à l'époque, on chasse notamment la bête brune, hein, c'est-à-dire le sanglier. Ça, c'est dangereux. Il aurait pu mourir des coups d'un sanglier, si je puis dire. Eh bien non, l'existence de Philippe va basculer le 13 octobre 1131 à cause d'un cochon.
Un extrait de la bande originale de la série Games of Thrones à l'instant sur Europe 1. Restez avec nous. Dans un instant, Franck Ferrand continue de vous raconter l'histoire du roi Philippe de France tué par un cochon.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et aujourd'hui, Franck, vous avez décidé de revenir sur la mort d'un roi, Philippe de France, tué par un cochon.
Et oui, son cheval, enfin, le cochon s'est mis dans les pattes de son cheval en ce 13 octobre de l'année 1131. Alors, c'est l'abbé de Saint-Denis, le conseiller du roi, le célèbre Suger, qui a joué un rôle tellement important dans la naissance de la nouvelle abbatiale, la nouvelle, ce qui deviendra beaucoup plus tard la basilique de Saint-Denis, qui raconte l'accident dont Philippe a été victime dans une vie de Louis VI qui a été rédigée quelques années après les faits, sans doute entre 1138 et 1143. Je le cite. Entre-temps se produisit un malheur étrange, inouï, comme jamais on en avait eu connaissance dans le royaume de France. Philippe, fils du roi Louis, chevauchait un jour dans un faubourg de Paris. Un porc, véritable envoyé du diable, notez bien l'expression, on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure avec Michel Pastoureau, véritable envoyé du diable, ce porc se mit en travers de son chemin et heurta le cheval qui tomba lourdement. Le cavalier, le très noble enfant, fut projeté contre une grosse pierre, piétiné puis écrasé par le corps du cheval. Voilà la relation que donne Suger. Un moine anonyme de l'abbaye bénédictine de Morigny, près d'Étampes, une abbaye située au cœur du domaine royal et donc bien renseignée sur ce qui regarde le règne de Louis VI, ce moine anonyme ajoute quelques détails dans son récit qui lui est écrit en 1132, c'est-à-dire seulement quelques mois après le drame, bien avant le récit de Suger. Il affirme que le cheval de Philippe est véloce et que la rue de Paris où s'est produit l'accident est étroite. Ça, c'est très intéressant. On ne sait pas exactement où ça se passait, cette histoire. On a dit que le prince ou le roi, comme vous voudrez, Philippe, avec ses compagnons, avait été à la chasse dans l'est de la ville, du côté du bois de Boulogne, où abonde le gibier. Certains historiens ou chroniqueurs ont même dit qu'il y avait eu une chasse très importante et que le roi Philippe, de sa main, ce jour-là, avait tué un sanglier, voire une laie. Peut-être histoire de remonter un peu, de redorer un peu son blason, si je puis dire. Toujours est-il qu'il est très difficile de dire si le roi était de retour de la chasse à ce moment-là. On n'en sait rien, pour tout vous dire. Alors donc, notre moine parle de ce cheval véloce, de la rue étroite. Il ne parle pas de la grosse pierre que la tête du jeune Philippe aurait heurtée, mais il mentionne un fait très intéressant. Il nous dit que les compagnons du jeune roi se sont enfuis égaillés dans toutes les directions. Par la suite, d'autres auteurs vont donner plus de détails. Alors que Suger parlait d'un faubourg, rappelez-vous, il semblerait que l'accident aurait pu avoir lieu dans Paris même, près du cimetière Saint-Gervais, ou bien dans le quartier Saint-Jean, voire même dans la rue Saint-Jean. Donc on est dans des quartiers qui sont situés à l'arrière de l'hôtel de ville actuel. Des textes s'attardent également sur le cheval, dont on nous décrit la robe. Elle serait tantôt blanche, tantôt grise. La taille haute du cheval pour un cavalier si jeune. Sa course sans doute trop rapide s'il s'agissait de traverser un faubourg ou de parcourir une rue. Quant au cochon, nous venons-y tout de même, il sort d'une ferme. Il vient de la gauche, il est poursuivi par des enfants, il court en sens inverse du jeune cavalier. Voilà ce qu'on peut, en glanant ici et là quelques renseignements, voilà ce qu'on pourrait dire. Certains récits, et ça ce sont des récits qui sont plutôt hostiles aux Capétiens, affirment que l'accident n'est pas dû à un cochon, mais à une simple chute de cheval. Un moine de l'abbaye de Saint-Évroult en Normandie, qui s'appelle Ordéric Vital, c'est un des historiens les mieux informés de la première moitié du XIIe siècle, dans son Historia Ecclesiastica, qui a été compilé entre 1114 et 1141, à partir d'une documentation surabondante. Voilà ce que nous dit Ordéric Vital. Pour lui, la cause de l'accident est simple. Philippe a fait une simple chute de cheval alors qu'il poursuivait un écuyer dans les faubourgs de Paris. Ah, il y aurait donc eu là un jeu qui aurait mal tourné, pourquoi pas. Autour des années 1140, d'autres auteurs, des moines pour la plupart, vont passer sous silence l'intervention du porc régicide. Mais il est difficile, disons-le, de donner du crédit à ces récits qui sont écrits généralement par des personnes assez hostiles aux Capétiens. Le défunt est nommé Philippus Aporco Infectus ou Rex Aporco Infectus. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas, on ne le vante pas, ce pauvre malheureux. Après l'accident, alors que Philippe a presque tous les membres brisés, on le transporte dans une maison voisine. Son cas est désespéré. La panique à ce moment-là est littéralement générale. Voilà ce que nous dit la fameuse chronique de Morigny. Là, une foule des deux sexes, de tous âges et de toutes conditions s'était rassemblée. La douleur était insupportable et les lamentations montaient jusqu'au ciel. Comme toujours en de telles occasions, chacun éprouvait un chagrin personnel et le partageait avec son voisin, si bien que l'excitation devenait générale. Et c'est Suger qui raconte « La ville entière et tous ceux qui apprirent la nouvelle furent consternés de douleur. Tout le monde poussait des cris, pleurait, se lamentait. » Bien entendu, on a prévenu le roi Louis et la reine Adélaïde qui accourent au chevet de leur fils mourant. L'abbé de Saint-Denis suggère, les prélats, les barons de France vont les rejoindre. Tout le monde assiste à l'agonie du prince. Voilà ce que nous dit encore la chronique de Morigny. Le pape se trouvait alors en chemin pour se rendre à Reims avec une multitude d'évêques, d'abbés, de hauts seigneurs, de théologiens et de clercs. Apprenant la nouvelle, une grande partie de cette troupe se détourna vers Paris. Et voilà comment un petit accident qui paraît relativement ordinaire, pour ne pas dire anecdotique, va tout simplement frapper de plein fouet la chrétienté.
Tous les jours, vous pouvez réagir à l'émission, soit sur la page Facebook d'Au cœur de l'histoire ou sur Twitter avec le hashtag ACDH. Franck Ferrand revient dans un instant sur Europe 1 pour la suite de son récit sur l'accident de cheval tragique du roi Philippe de France.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et aujourd'hui, au cœur de l'histoire, cet accident tragique du roi Philippe de France alors qu'il n'avait que 15 ans, Franck.
Et oui, ce que furent la souffrance et la désolation de son père, de sa mère et de tous les grands du royaume, nous dit toujours Suger, Homer lui-même ne parviendrait pas à l'exprimer. Et on a l'impression en effet de plaintes, de gémissements, de jérémiades autour de la mort de ce jeune homme. En cette période favorable au calme et à la prospérité, nous dit toujours la chronique de Morigny, cet événement brisa le cœur de tout le monde en raison de son caractère effroyable. Provoquant autant de stupeur que de douleur, il plongea tous les esprits dans la consternation la plus sombre. On a l'impression, et on a connu un grand nombre de cas dans l'histoire, bien entendu, le plus récent étant sans doute, si je ne m'abuse, en tout cas pour ce qui est de la France, la mort du duc d'Orléans, le fils de Louis-Philippe, dans des conditions relativement comparables d'ailleurs. Hein. Il était victime d'un accident de voiture, mais enfin avec des chevaux qui s'étaient emballés également, du côté de l'actuel quartier de la Porte Maillot à Paris. Et bien, à chaque fois, c'est l'impression, toujours lorsqu'un héritier du trône meurt, pour le peuple, c'est l'impression de la fin de l'espoir. C'est comme si on vous arrachait le futur d'une certaine manière. Et d'autant plus que le prince Philippe était très apprécié. C'était un enfant charmant, à la santé florissante, espoir des gens de bien, ennemi des méchants, nous dit Suger, qui reprend, entre nous soit dit, quasiment à la lettre les anciennes chroniques antiques. Donc là, il faut faire aussi attention, il faut se méfier de la rhétorique, hein, bien entendu. Il y a des formules toutes faites qu'on emploie dans ce genre de circonstances. Il me semble que la chronique de Morigny est plus précise en l'espèce. « Superbe de corps et agréable de visage, nous dit-elle, promis à l'exercice du pouvoir suprême, ce prince l'emportait sur tous les jeunes princes de son temps et de son âge, victime d'une mort atroce, fut retiré du monde des vivants, un tendre enfant dans lequel reposait toute l'espérance du royaume. » Et c'est vrai que tout le monde est très très affecté. La douleur de Louis VI, nous dit Michel Pastoureau, comme du reste celle de son épouse, la reine Adélaïde, n'a rien de convenu. Elle est sincère, immense, extrême. Le roi n'est plus lui-même et ses proches ne parviennent pas à lui rendre sa raison. Et le deuil est si grand et si fort que pour éviter que tout cela ne s'éternise, on essaie d'accélérer le protocole. Dès le 15 octobre, c'est-à-dire juste deux jours après la mort de Philippe, il est enterré à Saint-Denis, dans la nécropole royale, à gauche de l'autel de la Sainte Trinité, en présence des barons de France, de toute une grande partie de l'épiscopat, bien entendu. On peut lire là encore dans la chronique de Morigny, je cite, « Pendant la cérémonie, plusieurs parmi les barons manquèrent de s'évanouir en raison de la souffrance immense qu'ils éprouvaient, d'autres durent les soutenir et les accompagner jusqu'au lieu de sépulture. On imagine hein, quand même cette espèce de psychodrame collectif, c'est tout à fait extraordinaire. Et quand je parle de rapidité des événements, vous allez voir que ça ne s'arrête pas là, puisque encore 2 jours après l'enterrement de Philippe, le 17 octobre, la famille royale arrive à Reims, et quelques jours plus tard, dès le 25 octobre, le frère cadet de Philippe, donc Louis le Jeune, qui était âgé de 10 ans et qui se destinait, lui, tout à fait à l'état d'ecclésiastique, d'ailleurs il n'y a jamais vraiment renoncé dans le cours de sa vie, ça va être un autre problème, Louis est sacré, couronné dans la cathédrale de Reims par le pape Innocent II en personne, qui a ouvert la veille un concile général de l'Église pour déposer le fameux Anaclet II, vous savez, qui est considéré dès lors comme anti-pape. Reims est alors pour quelques jours, on peut le dire, la capitale de la chrétienté, un concile, le pape là dans les murs, et puis le pape qui va couronner le fils cadet de Louis VI, qui deviendra plus tard le roi Louis VII, l'époux de notre célèbre Aliénor d'Aquitaine, vous savez. Louis VI est donc absolument inconsolable. Même le pape Innocent II n'arrive pas à le réconforter ni même à le calmer. Il multiplie pourtant les paroles apaisantes. Philippe était trop parfait pour vivre en ce monde, dit-il. Rien n'y fait. Le désespoir du roi est infini et il est très probable que le désespoir du roi et au-delà, le désespoir de tout le royaume soit d'autant plus grand que l'accident est assez bête, disons-le, et qu'il a pour origine, pour cause désignée, un diable de porc, un porcus diabolicus. Bonjour Michel Pastoureau.
Bonjour.
Vous avez, de cet événement historique un peu oublié, tiré un ouvrage passionnant qui nous replonge au cœur du XIIe siècle. Nous y allons tout de suite avec vous.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
À seulement 15 ans, le jeune roi Philippe de France meurt tué par un cochon. Cet après-midi sur Europe 1, on revient sur ce drame de la royauté avec vous, Franck Ferrand, et votre invité, Michel Pastoureau, historien, directeur d'études à l'école pratique des hautes études, spécialiste de l'histoire des animaux, des couleurs et des symboles. Trois sujets que l'on retrouve dans son livre « Le roi tué par un cochon » paru aux éditions du Seuil.
Et oui, c'est un livre qui, comme toujours avec Michel Pastoureau, est plein de sens, si je puis dire, et extrêmement passionnant à lire. Alors, c'est un livre que vous méditez depuis longtemps, Michel Pastoureau, c'est ça qui est amusant. On a l'impression quasiment, on se dit « Tiens, qu'est-ce que c'est que cette histoire de roi tué par un cochon ?» En vérité, vous, ça vous travaille depuis des décennies, cette histoire.
C'est vrai, ça a l'air un peu extravagant, mais je pense à cette histoire depuis que je suis lycéen. J'ai eu la chance de naître dans une famille où il y avait beaucoup de livres d'histoire, et dans la bibliothèque de mon oncle, dans un ouvrage d'Ancien Régime, une histoire de France, celle de l'abbé Mézeray, j'avais lu quelques lignes sur cet événement, raconté donc au XVIIe siècle. Et je m'intéressais déjà, adolescent, à la place de l'histoire des animaux dans l'histoire. C'était pas un sujet pour la grande histoire, mais pour la petite histoire. Et puis plus tard, en travaillant sur l'origine des armoiries et les animaux et leur symbolique au Moyen-Âge, j'ai décidé de creuser cet événement. Et j'y ai travaillé pendant presque 50 ans. J'ai assommé sans doute mon auditoire dans mes séminaires à l'école pratique des hautes études et à l'école des hautes études en sciences sociales.
Mais maintenant, donc, c'est fait, si je puis
voilà,
dire.
Voilà, c'est fait. Le livre est paru et la maturité a été longue. C'est une histoire peu connue, au fond. Elle a disparu complètement des ouvrages universitaires, et la plupart de mes collègues...
Elle va peut-être y reparaître grâce à vous maintenant, parce que ce que vous démontrez, c'est que cette histoire est au cœur, vraiment, de la compréhension du XIIe siècle. Ça, c'est assez fascinant. Alors, on viendra un peu plus tard, si vous voulez, assez vite, là, on va y venir, mais à la place du cochon dans cette société, justement, à ce que représente le cochon, etc. Avant cela, revenons peut-être à l'événement lui-même. Est-ce qu'on peut dire de façon à peu près certaine que l'événement s'est passé de telle ou de telle manière? Parce que les chroniques ne sont pas toutes d'accord et elles ne sont pas, pour la plupart, directement renseignées, il faut bien le dire.
Oui, les auteurs de chroniques sont divers. Certains sont favorables à la dynastie capétienne, d'autres lui sont hostiles. Il y a des chroniques françaises, des chroniques anglaises. Enfin, en gros, elles s'accordent sur l'événement, la mort du jeune roi, âgé de 15 ans, une chute de cheval, et une chute de cheval provoquée par un cochon, c'est-à-dire par un animal tout à fait infâme. Et l'événement a beaucoup de retentissement. J'ai étudié avec mes étudiants le vocabulaire latin pour qualifier la mort de ce jeune prince. Ce sont des mots très forts. Horrible, misérable, infâme, honteuse.
On a une impression d'hystérie quasiment autour de ce décès. Une douleur proclamée, une impression de fin du monde. C'est assez étonnant, parce qu'après oui. tout, il avait un petit frère, ce jeune roi.
Oui, il faut faire la part des clichés, bien sûr. Hein. Mais il y a vraiment, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, une grande émotion. Et c'est quand même un événement qui change le cours de l'histoire de France, puisque c'est le cadet qui n'était pas destiné à monter sur le trône, qui devient roi, le futur Louis VII, un règne qui est parmi les plus désastreux de toute l'histoire de France.
Parce qu'alors vraiment, Louis VII n'était pas fait pour être roi, il était religieux dans l'âme. Son épouse, Aliénor d'Aquitaine, disait d'ailleurs qu'elle avait épousé un moine, mais c'était vraiment ça. Hein. Il ne se fera jamais à sa fonction royale, en quelque sorte.
Il l'a dit lui-même plusieurs fois qu'il aurait préféré être moine que roi, et il a toujours eu le sentiment, au fond, d'être un peu un usurpateur. C'est son frère aîné qui aurait dû être roi, et pas lui, donc c'est une souffrance, une blessure. D'ailleurs, il mourra beaucoup plus tard, en 1180, et il demandera à ne pas être enterré à Saint-Denis, comme s'il n'était pas digne du cimetière des rois, mais dans une abbaye qu'il avait lui-même fondée.
Comme s'il était lui-même une sorte de roi, entre parenthèses. Alors, il ne faut pas confondre, et on a tendance à le faire, c'est assez naturel, cette mort avec une autre mort, celle de Louis V, justement, qui lui avait buté non pas sur un cochon, mais sur un sanglier. C'est pas tout à fait la même histoire, quelques siècles plus tôt.
Non, c'est deux animaux qui, biologiquement...
Pas quelques siècles, quelques décennies plutôt.
...sont conspécifiques, mais symboliquement, au Moyen-Âge, le cochon, ça n'est pas le sanglier. Et les rois ou les princes morts à la chasse à cause d'un sanglier, il y en a beaucoup, soit morts directs, soit morts consécutivement aux blessures. C'est le cas du dernier Carolingien ayant régné sur la France, Louis V. Ce sera plus tard le cas de Philippe IV le Bel, mort après une chasse au sanglier. Mais au fond, c'est une mort noble, héroïque. Un roi, ça doit chasser. Un roi qui ne chasse pas, c'est inquiétant, ça n'est pas un vrai roi.
Alors que là, c'est un accident domestique, si je puis dire, et qui plus est, avec l'intervention d'un animal qui n'est pas considéré comme très noble. C'est le moins qu'on puisse dire.
Qui est même ignoble. C'est l'animal le plus ignoble qu'il soit aux yeux des bestiaires médiévaux et de la sensibilité de ce XIIe siècle. Donc cette mort a quelque chose de tout à fait honteux.
C'est une souillure, vous dites. Hein,
c'est une souillure,
fait, hein.
C'est le mot que j'emploie. Je l'ai trouvé dans les chroniques. Et tout va être fait, difficilement, pour essayer d'effacer cette souillure qui s'est abattue sur le roi, sur la dynastie, sur le royaume tout entier.
Comment peut-on faire pour essayer d'effacer les choses? On travestit un peu la réalité des faits, on fait des donations aux monastères et aux abbayes.
Des églises, vous avez raison, la reine a fondé l'abbaye de Montmartre, par exemple. Le roi fait des donations aux églises, et puis, quand il va être mort, son fils cadet va monter sur le trône, Louis VII, qui va continuer cette politique, effacer la souillure. Il va finalement décider, puisque rien n'y fait, de partir en croisade. Ce sera la deuxième croisade avec la reine Aliénor. C'est une croisade catastrophique à tout point de vue. Donc la souillure, loin d'être effacée, est plutôt accentuée. Et Louis VII a l'idée que sa dynastie, sa personne sont maudites. Rien ne fait pour effacer cette mort infâme, qui était peut-être une punition d'ailleurs, punition divine, en raison du comportement de Louis VI le père et surtout de Philippe Ier le grand-père.
Eh oui, donc ils étaient punis de leur mauvais comportement. Qu'est-ce qu'on leur reprochait ?
On leur reprochait, comme souvent envers les souverains, une attitude envers les évêques, envers les papes, envers l'Église qui est hostile. Ça n'a pas toujours été le cas pour Louis VI, mais à certains moments c'est vrai. Et puis pour le grand-père, un comportement matrimonial plus ou moins détestable. Il a répudié sa femme, enlevé la femme du comte d'Anjou, avec qui il vivait maritalement. Il a été excommunié, l'interdit jeté sur le royaume de France. Bref, des choses épouvantables qui peuvent être la cause de ce Porcus Diabolicus envoyé pour causer la mort du jeune prince Philippe.
Alors, nous verrons jusqu'où a été la propagande royale pour essayer d'effacer cette tache, cette souillure. Mais s'il y a tache et s'il y a souillure, c'est à cause du cochon. Et ce qu'il y a sans doute de plus extraordinaire dans votre ouvrage, c'est l'importance, occupée par le cochon dans cette civilisation du XIIe siècle et par la place très singulière qu'il occupe. Vous l'avez décrit tout à l'heure comme ignoble. D'où vient-il que cet animal soit à ce point et si mauvaise presse, si je puis dire ?
C'est un héritage que le Moyen-Âge a reçu. Déjà dans l'Antiquité, on souligne que le cochon est sale, qu'il se nourrit de n'importe quoi, il mange des immondices, il mange des cadavres, il mange même sa propre progéniture parfois. Les auteurs chrétiens du Moyen-Âge soulignent qu'il a toujours la tête tournée vers le sol, qu'il ne regarde jamais vers le ciel, c'est-à-dire vers Dieu. Bref, on lui met beaucoup de vices et de péchés sur le dos.
Et en même temps, on en a besoin, parce que ce que vous montrez, c'est que tout simplement, le cochon à l'époque sert d'éboueur dans les villes.
Voilà, et c'est peut-être pour ça qu'il a occasionné cet accident. Il y a beaucoup de cochons partout, à la campagne bien sûr, mais aussi en ville, où il sert des boueurs, et il va servir des boueurs jusqu'en plein XXe siècle, dans certaines villes, à Naples par exemple, malgré les...
Il faudrait peut-être penser à réintroduire des cochons à Naples d'ailleurs, parce que quand on voit la situation actuellement...
Les autorités municipales légifèrent contre la divagation des porcs qui occasionne tant et tant d'accidents. Bref, il y a des cochons partout. Il est aussi extrêmement utile pour l'alimentation, c'est le pilier de l'alimentation carnée du Moyen-Âge chrétien. On sait conserver la viande de porc, séchée, salée, fumée, et avec le hareng, c'est au fond, pour la plupart des hommes et des femmes du Moyen-Âge, les seuls morceaux de viande qu'ils consomment.
Donc une position extrêmement ambivalente au cœur de cette société du XIIe siècle. Nous revenons en votre compagnie, Michel Pastoureau, dans un instant, sur la place du cochon chez nos ancêtres.
Un extrait de la bande originale du film Notre-Dame de Paris, film de 1956 réalisé par Jean Delannoy. Aujourd'hui, Franck, nous sommes au XIIe siècle, le roi Philippe de France meurt à cause d'un cochon et vous recevez Michel Pastoureau, historien, directeur d'études à l'école pratique des hautes études.
Alors Philippe est ce qu'on aurait appelé beaucoup plus tard un dauphin, c'est-à-dire qu'il est l'héritier du roi Louis VI de France. Il est roi désigné, Rex Designatus, disait-on à l'époque, et il meurt indirectement à cause d'un cochon, puisque ce cochon est venu se mettre dans les jambes de son cheval. Je dis bien dans les jambes, car comme le fait très justement observer Elisabeth grâce à Twitter, on ne parle pas des pattes, mais bien des jambes d'un cheval. Pardon Elisabeth, et pardon à tous les amis des chevaux qui nous écoutent. Ce cochon va jouer un rôle très important, parce qu'il va tacher la dynastie, il va la souiller d'une certaine manière, et nous étions en train de parler... Michel Pastoureau, de tous les attributs négatifs du cochon. Est-ce qu'il y a quelque chose de biblique dans cette conception ?
Oui, la Bible n'est pas tendre avec le porc domestique. À plusieurs reprises, aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, il est présenté comme un animal totalement négatif, impur. Il fait partie de la liste des animaux rejetés par le Lévitique et par le Deutéronome. Dans le Nouveau Testament, il y a un épisode où Jésus guérit un possédé dont le corps est envahi de démons. Il ordonne aux démons d'aller se réfugier dans un troupeau de porcs qui se trouvait pas loin. Et ces porcs, une fois envahis par les démons, se jettent dans le lac de Tibériade. Donc, pour la culture médiévale qui fait de la Bible la référence première de toute chose, le porc est un animal au plus bas de l'échelle du monde animal.
Et néanmoins, contrairement à ce qui se passe dans les populations juives ou musulmanes, on consomme du porc et même beaucoup. Vous nous disiez que c'est une des bases de l'alimentation dans l'Occident chrétien.
Oui, ce dossier porcin que je développe dans le livre m'a donné l'occasion de faire le point sur les tabous et les interdits qui entourent le porc. Alors, aujourd'hui, plus personne ne croit à l'hypothèse hygiénique et climatique qui expliquerait que la viande de porc dans les pays chauds se conserve mal, engendre des maladies. Non, ça s'est abandonné par tout le monde. Dans les mêmes régions chaudes, il y a des peuples qui mangent du porc et d'autres qui n'en mangent pas. Les autres viandes ne se conservent pas mieux que celles du porc. Donc plus personne ne croit à cette idée-là, mais il y a d'autres hypothèses pour expliquer pourquoi le porc est tabou, notamment chez les juifs et chez les musulmans. Il y a des hypothèses historiques liées aux tribus nomades primitives. Le porc ne peut pas suivre les populations qui se déplacent, comme le fait le mouton ou la chèvre. Donc il serait rejeté par les anciens peuples nomades. C'est un animal des populations sédentaires. Il y a surtout une hypothèse qu'on pourrait qualifier de sémiologique, très séduisante, avancée par une chercheure américaine. Il ne faut pas prendre le porc tout seul dans l'abîme, mais tous les animaux qui sont taboués, et on s'aperçoit que ce sont des animaux qui sont difficiles à classer. Ils sont hors catégorie.
Voilà.
On ne sait pas quoi en faire.
On ne sait pas trop à quel règne ils appartiennent,
voilà.
En fait. C'est
non,
ça.
Non pas par rapport à nos savoirs zoologiques d'aujourd'hui, mais par rapport aux savoirs zoologiques
de l'époque.
De l'époque,
bien sûr,
de
oui,
l'époque.
Bien sûr.
Voilà. Et donc, les animaux qui vivent dans la mer, mais qui n'ont pas d'écailles, par exemple, sont tabous, comme le porc qui a le pied fendu, mais qui ne rumine pas, comme les ruminants, et ainsi de suite. C'est
ouais.
assez intéressant.
Vous parlez du pied fendu, etc., des grognements. Il y a quelque chose aux yeux de nos ancêtres, il y a quelque chose de diabolique dans le porcus diabolicus, ainsi qu'on le décrit dans certaines chroniques.
Oui, c'est un mot très fort, hein, diabolicus. Je l'ai traduit non pas par un diable de porc ou par un maudit porc, ça me semble trop faible, mais plutôt, j'ai choisi l'expression, un porc envoyé du diable.
Voilà.
Ou un porc démoniaque qu'on vient dresser très fort. Il y a un jeu de mots d'ailleurs au Moyen-Âge entre diabolicus et obliquus. Obliquus, oblique, ne pas aller droit, c'est un immense péché de ne pas marcher droit au Moyen-Âge,
oui.
Entrer de biais dans une église ou aller en zigzag comme le renard, tout ça c'est très mal. Donc diabolicus, c'est un terme fort. Et puis alors, pour expliquer ce rejet du porc, je développe une hypothèse à laquelle je tiens beaucoup, à savoir le cousinage biologique
et, voilà.
et physiologique entre l'homme et le cochon, bien reconnu par la médecine la plus contemporaine, mais déjà connu des médecines anciennes. L'anatomie du corps humain au Moyen-Âge s'enseigne dans les écoles de médecine à partir de la dissection de la truie ou du cochon, parce qu'on n'a pas le droit de disséquer le corps humain. On a l'idée qu'à l'intérieur c'est tout pareil, et en fait, nos savoirs d'aujourd'hui confirment qu'à l'intérieur c'est tout pareil.
Alors ce qu'il y a d'étonnant, c'est que à la suite de cet événement, on va prendre des décisions, bien entendu comme on le ferait aujourd'hui après un événement dramatique. Sauf que là, on n'a pas l'impression qu'on fasse la police des rues et des villes, on n'a pas l'impression que les cochons seront mieux parqués qu'avant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on prend des décisions qui sont largement d'ordre symbolique et religieux, et notamment pour essayer d'améliorer l'image de cette dynastie souillée par l'accident du roi Philippe, pour essayer de purifier ce qui a été rendu impur, on va vouer le royaume en quelque sorte à la Vierge, c'est ce que vous nous expliquez ?
Exactement. Tout a échoué, et comme au Moyen-Âge, les décisions symboliques sont bien plus importantes que
les décisions pratiques.
Factuelles, oui, tout à fait. On fait appel à la Vierge en dernier recours, et à une date que nous ne connaissons pas exactement, mais Louis VII, conseillé par Suger, abbé de Saint-Denis, et Saint-Bernard, maître à penser de la chrétienté, ont fait de la Vierge la patronne du royaume de France, et même probablement la reine de France. Après son divorce d'avec Aliénor, Louis VII ne se remarie pas tout de suite, et on a un peu l'impression que dans le creux, il a épousé la Vierge. Plusieurs textes vont dans ce sens. La Vierge est devenue reine de France, et lorsque on décide de créer les armoiries royales, les premières, c'est la période de l'apparition des armoiries dans toute l'Europe, eh bien on emprunte à la Vierge deux de ses attributs, qui sont tous les deux signes de pureté, symbole de pureté, la fleur de lys et la couleur bleue.
Et ça, c'est fondamental, parce que cette couleur bleue, elle va devenir la couleur des rois de France. Hein, et c'est vrai que leurs armes, ce sont des lys d'or sur un fond d'azur, hein, sur un fond bleu. Et cette couleur bleue, on va la retrouver au-delà même de la monarchie, dans tout ce qui représente la France. Regardez encore aujourd'hui le maillot des joueurs de l'équipe de France, tout simplement, de football.
Voilà, c'est la dernière partie de mon livre, et ça a l'air extravagant que le bleu de la France, la couleur nationale, soit dû à un cochon qui s'est mis dans les pattes du cheval.
Dans
les jambes du cheval au milieu du XIIe siècle, et pourtant tout se tient, ce bleu marial devient un bleu capétien et dynastique, puis un bleu royal, puis un bleu étatique, puis à l'époque moderne un bleu national, à la veille de la Révolution le bleu est la couleur nationale de la France, c'est d'ailleurs pour ça que la République, qui rejette tous les emblèmes et symboles royaux, garde le bleu, parce que il est beaucoup plus national que royal en 1789, et il est resté jusqu'à aujourd'hui. Quand j'ai fait mon service militaire, j'ai appris à plier correctement le drapeau tricolore, et le bon usage, en milieu militaire en tout cas, on cache le rouge et le blanc, on ne doit voir que du bleu. C'est vraiment la couleur nationale, tous les sportifs français jouent, s'affichent en maillot bleu, donc ce bleu vient de très loin, il vient du XIIe siècle, et probablement ce Porcus Diabolicus est la cause première de notre bleu national.
Vous imaginez, chère Anissa, que la couleur de nos micros et de nos studios ici à Europe 1 est peut-être due à ce faux mouvement commis par un cochon parisien du XIIe siècle. Merci infiniment, Michel Pastoureau. Je signale qu'à la fin du mois d'octobre, du reste, va être publié, toujours chez Seuil, qui est votre éditeur, avec Dominique Simonet, un ouvrage qui s'appelle « Les couleurs expliquées ». Un livre en images, bien entendu. Et vous êtes le grand spécialiste des couleurs et vous nous en apprenez toujours beaucoup sur le sujet. C'était passionnant. On aurait adoré en parler davantage encore, mais il va falloir passer à autre chose. Un dernier mot, c'est Alain qui nous écrit du Québec et qui dit « Chez nous, au Québec, le cochon a littéralement sauvé la colonie. Il fut longtemps l'animal d'élevage qui, par sa prolifique progéniture, a nourri des générations de Québécois. Et oui, on ne peut pas être diabolique partout. »
Et dans un instant, Franck, vous répondrez à la question de plusieurs auditeurs aujourd'hui qui veulent en savoir plus sur le record de longévité du règne d'Élisabeth II d'Angleterre.
Cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Le 9 septembre prochain, dans 5 jours, à 89 ans, Élisabeth II deviendra le monarque ayant régné le plus longtemps au Royaume-Uni devant son aïeule, la reine Victoria. Et plusieurs auditeurs, Franck, vous ont demandé de revenir sur ce record de longévité royale.
Et oui, la reine Élisabeth règne depuis le 6 février 1952. Ça fait donc 63 ans, 6 mois et 27 jours. Comme la reine Victoria a régné 63 ans, 7 mois et 2 jours, le 9 septembre, c'est-à-dire mercredi prochain, le record sera battu. C'est un record pour l'histoire d'Angleterre. Alors, on peut se demander ce qu'il en est à l'échelle de l'Europe. Eh bien, il y a des gens qui ont régné encore plus longtemps en Europe. On pense bien entendu à l'empereur d'Autriche, François Joseph, qui a régné près de 68 ans, entre 1848 et 1916. Et puis, nous l'avons dit et redit au début de cette semaine à l'occasion du tricentenaire de sa mort, Louis XIV a régné 72 ans, s'il vous plaît, de 1643 à 1715. Alors, d'ailleurs, entre nous soit dit, si on descendait encore dans la hiérarchie des souverains, on trouverait au XVIe siècle un prince Bernard VII de Lippe, de la propriété. La principauté de Lippe se trouve en Allemagne, qui a régné près de 82 ans. Et je ne vous parle ici que des souverains européens. Hors d'Europe, nombreux sont les souverains au long règne. On pense évidemment à l'empereur Hirohito du Japon, qui a régné 62 ans. Et actuellement, le roi de Thaïlande, Bhumibol Adulyadej, pardon, le roi Rama IX, c'est plus facile à dire, est le souverain couronné depuis le plus longtemps. Il règne depuis le 9 juin 46, ce qui fera 70 ans l'année prochaine. Cela ne doit pas diminuer le mérite de la reine Élisabeth qui a accompli un parcours tellement irréprochable. Vous savez, quand on dit la reine n'importe où dans le monde, sans autre précision, tout le monde sait très bien de qui l'on parle. Je voudrais, juste avant de rendre l'antenne, vous rappeler le titre de l'ouvrage de Michel Pastoureau qui nous a occupés et passionnés pendant toute cette émission. Ça s'appelle « Le roi tué par un cochon » avec comme sous-titre Une mort infâme aux origines des emblèmes de la France, point d'interrogation, et c'est aux éditions du Seuil. Voici Marion Ruggieri. Bonjour Marion.
Bonjour Franck. Comment repérer les amitiés toxiques? C'est la question que l'on se pose aujourd'hui jusqu'à 16h. Une amie nocive, un collègue jaloux, un conjoint manipulateur. Comment les repérer et comment surtout s'en prémunir? Vous allez voir, c'est passionnant et presque terrifiant.
Et voilà une émission de Salubrité publique. Merci beaucoup Marion. Nous nous retrouvons lundi, chère Anissa.
Avec grand plaisir. C'était Franck Ferrand sur Europe 1.